Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Une chute spectaculaire du chômage en 2021, presque un demi-million de demandeurs d'emploi en moins. Moins 20% pour le chômage des jeunes sur un an.
Oui, et la vérité doit être de mise. L'histoire transmise, séquence mémorielle pour Emmanuel Macron face à des rapatriés d'Algérie. Un tiers des salariés d'EDF en grève contre des mesures gouvernementales. Ils s'inquiètent de la santé du groupe. And the nominee is en route pour les Césars 2022 avec Europe 1, partenaire de l'événement. On connaît donc les nominations. Carton plein pour les illusions perdues de Xavier Giannoli.
Allez, la tendance météo avec Marlène Duret. Bonsoir Marlène.
Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Eh bien, le temps reste calme, mais l'anticyclone est un peu moins puissant qu'en début de semaine. Il va donc laisser passer une perturbation très atténuée avec quelques pluies faibles dans le nord du pays. Et c'est toujours en montagne et dans le sud qu'il faudra aller pour trouver le soleil. Météo complète à la fin du journal. Europe 1.
Il n'est pas si courant d'avoir une bonne nouvelle économique en plein Covid. Le chômage, Hélène, a très nettement baissé en 2021.
Et oui, le nombre de chômeurs est tombé au plus bas depuis près de 10 ans. Au quatrième trimestre, une baisse de plus de 12,5% sur un an. 480 000 demandeurs d'emploi en moins, Emmanuel Dutheil, c'est énorme.
Oui, hein, sur le papier, on peut vraiment parler de baisse spectaculaire. Le nombre de demandeurs d'emploi est au plus bas depuis le troisième trimestre 2012, c'est-à-dire depuis quasiment 10 ans. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que 2021 a été une année exceptionnelle pour l'emploi. Factuellement, elle a raison, mais bon, il y a eu aussi un effet correction après le boom des premières semaines du confinement niveau chômage. Au-delà de ça, même si les chiffres de décembre sont un petit peu moins encourageants, le marché de l'emploi est extrêmement dynamique. Fin 2021, les offres d'emploi déposées chez Pôle emploi ont progressé de 28% par rapport à fin 2019. Ce sont les jeunes qui en profitent le plus. Le chômage des moins de 25 ans recule de près de 20% sur un an. Sur le front du chômage de longue durée, point noir français, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus diminue aussi, mais plus modestement, un petit peu plus de 6% de baisse sur un an. En tout cas, ces données arrivent là encore, bien évidemment, au meilleur moment pour le gouvernement qui va pouvoir, en pleine présidentielle, vanter son bilan en matière d'emploi.
Emmanuel, vous évoquiez cette très nette baisse du chômage des jeunes. Comment est-ce qu'elle s'explique? Réponse de Christopher Dimbic, il est chef économiste de Saxo Bank.
La très forte baisse du taux de chômage des jeunes s'explique essentiellement par la multiplication des contrats d'apprentissage. On a eu énormément sur l'année 2021. Selon les derniers chiffres qui recouvrent quasiment l'intégralité de l'année 2021, on a eu quand même 650 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'est extrêmement important. Et pour donner un ordre de comparaison, c'est une hausse de plus de 25% par rapport à l'année 2020. Donc on a vraiment un changement de modèle et un changement d'attitude par rapport à l'apprentissage. On voit que c'est un modèle qui s'est complètement renouvelé, qui est désormais très attractif pour les jeunes et qui permet effectivement une insertion plus durable sur le marché du travail. C'est vraiment le facteur différenciant qui explique cette forte baisse du taux de chômage des jeunes au cours de l'année 2021.
Le chef économiste de Saxo Bank, joint par Emmanuel Dutheil. Une aide supplémentaire pour les indépendants pénalisés par le Covid, annonce du ministre délégué au PME Jean-Baptiste Lemoyne. Il promet des allègements de cotisations sociales et une aide financière exceptionnel.
Ce geste mémoriel d'Emmanuel Macron en direction des rapatriés d'Algérie.
Oui, le président avait invité à l'Élysée des représentants d'associations ainsi que des artistes pieds noirs comme le réalisateur Alexandre Arcadie ou l'actrice Françoise Fabian. Il a prononcé un discours fort, Jacques Seret, reconnaissant notamment un massacre commis par l'armée française en 62.
Oui, la fusillade de la rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962. Des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par des tirailleurs algériens de l'armée française. 60 ans après, le chef de l'État le reconnaît officiellement. Ce jour-là, des soldats français déployés à contre-emploi, mal commandés, ont tiré sur des Français.
La France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées. Librement.
La vérité doit être de mise et l'histoire transmise, insiste Emmanuel Macron. Un geste envers les pieds noirs à l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, avec les accords d'Évian du 19 mars, anniversaire qui tombera à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Geste électoraliste ou pas, Emmanuel Macron n'ignore pas que les rapatriés d'Algérie et leurs descendants, plusieurs centaines de milliers d'électeurs, votent majoritairement à droite, voire très à droite.
Jacques Seret, du service politique d'Europe 1. Hommage au brigadier français Alexandre Martin, tué samedi au Mali. Le cortège funéraire a traversé tout à l'heure le pont Alexandre III devant des Parisiens et des militaires avant une cérémonie à l'hôtel des Invalides.
Plus plus d'un salarié d'EDF sur trois était en grève ce mercredi.
Oui, c'était vraiment une grève massive, à l'appel des quatre principaux syndicats, et soutenue d'ailleurs par la direction. Un mouvement contre les mesures gouvernementales qui obligent EDF à vendre de l'électricité à bas prix à ses concurrents, solution choisie par Bercy pour faire baisser nos factures. Maud Descamps, chez EDF, l'opposition était très claire.
Oui, plus d'un salarié sur trois était en grève aujourd'hui, 37% selon la direction, 45% selon les syndicats. Un mouvement qui n'a pas entraîné de coupure de courant, mais simplement une baisse de la production dans la nuit de mardi à mercredi. Des grévistes un peu partout en France, à l'instar de Stéphane, cadre au sein de la centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France. S'il a débrayé aujourd'hui, c'est pour défendre, dit-il, l'avenir d'EDF face à une mesure dangereuse.
Ça va jouer sur les investissements, ça va jouer sur les emplois, donc à tout niveau, au niveau de la maintenance, on risque de voir forcément, ça va avoir un impact. Donc c'est très, très dangereux de nous demander de vendre à perte de l'électricité, parce que forcément ça va avoir des impacts.
Du côté de Bercy, on dit être attentif et aux côtés des salariés, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a comparé le choc gazier à l'origine de la hausse des prix de l'électricité au choc pétrolier de 1973. L'exécutif estime donc qu'en tant que groupe détenu à 84% par l'État, il est normal que EDF contribue à l'effort pour limiter la hausse des prix.
Maud Descamps.
Et puis la tempête ne se calme pas depuis les premières révélations du livre Les Fossoyeurs sur les défaillances dans les EHPAD d'Orpea.
Oui, le directeur général est convoqué par le gouvernement. Des sanctions pourraient être envisagées, comme le disait Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres.
Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes. Vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles. Si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionné avec la plus grande sévérité. Le directeur général d'Orpea a été convoqué par la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Ensuite, nous avons demandé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France leur dernier rapport de contrôle inopiné sur cet établissement, celui dont il est fait état, et les suites qui avaient été données à ce rapport. Et enfin, nous envisageons une mission d'inspection indépendante pour l'intégralité du groupe Orpea. Il est hors de question que de tels agissements puissent être tolérés dans notre pays.
Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Une pause, Hélène, et puis nous partirons à Kiev, en Ukraine, où l'on craint une intervention russe. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zelani. Hélène, la diplomatie est à l'œuvre à Paris pour tenter de trouver une issue à la crise en Ukraine.
Oui, réunion en présence de représentants allemands, russes, ukrainiens et français pour tenter de faire baisser la pression entre Moscou et Kiev. Dans le même temps, les États-Unis s'attendent à une attaque russe contre l'Ukraine dans les trois prochaines semaines et demandent d'ailleurs à leurs ressortissants de quitter le pays rapidement. Sur place, qu'en pense-t-on ? Bonjour et même bonsoir, Marion Gauthier.
Bonsoir, Hélène.
Vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Kiev. Est-ce que les habitants de la capitale craignent une offensive ?
Pour l'instant, c'est surtout la fatigue qui domine ici, un mélange de lassitude et d'incompréhension après presque 8 ans de guerre contre la Russie et toujours pas de solution, se désespère Sergueï. Le jeune homme s'est porté volontaire pour aller combattre en 2014. Il avait alors 17 ans. Il se dit toujours prêt à combattre et reprendre les armes.
C'est уже больше перешло в політику, в игру высших чинов.
Tout cela est devenu un jeu politique. Les gens le savent et attendent. Ils essaient de prendre leur distance. Moi, je ne croirai au conflit que quand il éclatera.
La tempête est d'abord sous les crânes. Beaucoup ici s'affichent sereins, s'émeuvent, se révèlent marqués par les affrontements. Alexei et Tatiana gardent un œil sur leur fils et répètent, comme pour s'en convaincre, qu'il n'y aura pas d'invasion.
Je pense que c'est juste une provocation des Russes. Il ne va rien se passer.
Ils veulent nous enfermer dans la peur. Nous, nous voulons croire que tout va bien se passer. Nous avons peur pour nos enfants, tellement d'innocents sont déjà morts.
Et même éloigné de la frontière, toute la ville porte ses blessures. Mémorial de Maïdan, la place de l'indépendance où des dizaines de personnes sont tombées lors des manifestations pro-européennes. Mur, hommage à ceux qui sont morts au combat depuis. Autant de rappels sous l'apparent calme enneigé des rues de la violence à laquelle les habitants ont été confrontés.
Marion Gauthier, en direct de Kiev. Vous êtes donc l'envoyée spéciale d'Europe 1.
Allez, on parle cinéma. Quel sera le meilleur film ? Le meilleur réalisateur ? La meilleure actrice ? Il faudra attendre le 25 février pour le savoir, date de la cérémonie des Césars.
Et cérémonie en partenariat avec Europe 1, c'est important de le souligner. On connaît désormais donc la liste des nominations. Marie Jiquel, un film domine tout, Les Illusions perdues de Xavier Giannoli, 15 nominations, succès critique et surtout succès public dès sa sortie en octobre.
Le film de Xavier Giannoli a attiré 850 000 spectateurs en pleine période de pandémie. Le réalisateur à qui l'on doit Marguerite avec Catherine Fraud réfléchissait depuis plusieurs années à cette adaptation du roman de Balzac qui se déroule au 19e siècle dans les coulisses du milieu de l'édition et de la presse et qui n'est pas très éloigné de notre réalité, comme le souligne Olivier Delbosque, le producteur.
À l'heure où les plateformes volent beaucoup de spectateurs dans les salles, je pense que ce qui a plu, c'est que c'est un grand spectacle. Ça renoue avec les traditions des grands films comme Amadeus, Cyrano de Bergerac. Ces grands films qui ont fait le patrimoine français. Et c'est surtout la modernité du propos de Balzac. Ça fait écho à notre société de manière fulgurante.
Suivent derrière Annette de Léos Carax avec 11 nominations et Aline de Valérie Le Mercier, 10 nominations, puis Bac Nord et ses 7 nominations. Mais rien n'est joué, nomination ne veut pas dire récompense. Par exemple, le réalisateur François Ozon, 16 nominations à titre personnel, n'a jamais reçu le précieux trophée compressé.
Marie Jiquel, et pas de nomination pour les films qui ont fait le plus d'entrées hein, l'an dernier, Kaamelott et Les Tuches. Réponse donc le 25 février, cérémonie que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1.
Et sur Canal+. Du football, ce soir, avec un match en retard de la 20e journée de Ligue 1.
Oui, Angers reçoit la lanterne rouge Saint-Etienne. La rencontre a commencé à 19h. Où en est-on, Loïc Folio ?
13 minutes de jeu, 0-0. Les Verts, vous l'avez dit, qui sont bons derniers avec 12 points récoltés en 21 matchs. Deux victoires obtenues seulement dans ce laps de temps. Et la mission de Pascal Dupraz s'annonce quasi irréalisable. Saint-Etienne accuse 8 points de retard sur le premier non relégable. Et il faut remporter 9 des 17 derniers matchs pour espérer se sauver. Voilà l'équation à laquelle est confronté Pascal Dupraz, qui lui a perdu ses 3 premiers matchs de Ligue 1 sur le banc des Verts. 0-0. Entre Angers et Saint-Etienne, 13 minutes de jeu.
Loïc Folio, l'homme qui arrive à placer le plus de mots en minimum de temps en direct d'Angers pour Europe 1. L'Euro de hand, l'équipe de France a rendez-vous avec le Danemark ce soir à 20h30, un nul ou une victoire. Et les portes des demi-finales sont ouvertes. Cédric Chasseur, ça fait une sacrée pression sur les épaules.
Effectivement, et encore plus depuis la victoire cet après-midi de l'Islande face au Monténégro, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Une défaite et la France rentrera à la maison. Donc c'est un match couperet, comme l'explique le sélectionneur Guillaume Gilles.
Il y a un moment de vie, de mort là, qui se joue sur une heure vis-à-vis de l'Euro. Alors ça reste bien sûr du symbolique, mais c'est ce qui génère aussi l'excitation au préalable. Le Danemark est ultra présent dans les têtes et dans les discussions.
Le Danemark, qui est lui déjà qualifié, et jouera ce match l'esprit tranquille. À voir si cela aura une incidence sur le rapport de force entre les deux nations. Mais vous imaginez bien que les Danois ne se priveront pas, s'ils le peuvent, de sortir les champions olympiques en titre. D'autant qu'il s'agit d'une revanche de la dernière finale des Jeux à Tokyo. Finale brillamment remportée par les Bleus. On espère évidemment un scénario similaire ce soir.
Évidemment, Danemark-France à 20h30. Cédric Chasseur.
Hélène. Allez, la météo, Marlène Duret. Demain, allez, quelques petites pluies dans le nord.
Et oui, petite faiblesse de l'anticyclone, Laurence. Une perturbation en profite pour entrer dans le pays. Et elle ne va donner que de plus faibles, rassurez-vous. Alors, plus faibles d'abord dans le Nord-Pas-de-Calais. Et elles gagneront en cours de journée la Normandie, le nord de l'Île-de-France et de la Champagne-Ardenne, à proximité également de la frontière luxembourgeoise. On n'exclut pas quand même quelques brunes verglaçantes, notamment du côté des Ardennes. Le matin comme l'après-midi, puis en soirée, ces pluies vont concerner la moitié nord du pays et le risque de brunes verglaçantes s'étendra dans la nuit des régions du nord-est jusqu'au nord de la vallée du Rhône. Il va continuer à faire beau en montagne, sur l'ensemble des massifs montagneux, et puis en journée, la grisaille du matin se maintiendra grosso modo au nord d'une ligne reliant La Rochelle à Colmar en passant par Poitiers, Nevers, Dijon, et puis au sud de celle-ci, eh bien, le soleil sera particulièrement généreux. Comme les jours précédents, les températures de l'après-midi seront contrastés entre les villes sous le soleil et celles sous la purée de pois. Alors, sous le soleil, il fera doux parfois. Hein. Vous savez que dans les Pyrénées-Orientales, on a franchi le seuil des 20 degrés quand même. Et puis, demain, Météo France prévoit un minimum de 2 degrés du côté de Dijon, 3 à Bourges, Lyon, Strasbourg, 4 à Agen, 5 à La Rochelle, 6 degrés attendus à Reims, 7 à Paris, 8 à Montélimar, 9 à Lille, nous aurons 12 à Marseille et Aurillac, 14 à Toulon et jusqu'à 15 à Ajaccio.
Merci beaucoup Marlène Durand. Merci Hélène Delany. On se retrouve demain, bien sûr, pour le journal. Dans un instant, les débats de Punchline reviendra sur ce geste qu'a fait Emmanuel Macron envers les pieds noirs en reconnaissant deux massacres en Algérie. A tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.